réplique que veut la Russie avec François Stomm et Andrei Gratchov. L'extrême droite, l'extrême gauche, mais aussi les leaders de la droite traditionnelle et certains élus ou anciens ministres socialistes répètent à l'envi, depuis quelque temps, que par esprit de croisade ou simplement par maladresse, nous avons, nous les Européens, nous les Occidentaux, humilié la Russie, en voulant à toute force faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, voire dans l'Alliance atlantique, au mépris des préoccupations du grand voisin et de ses intérêts légitimes. Nous essayons de nous rattraper maintenant avec les fragiles accords de Minsk signés sous l'égide du couple franco-allemand, mais le mal est fait et il règne un climat de quasi-guerre froide entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Je voudrais commencer par ce mot, humiliation. Avec mes deux invités, Françoise Stomm, historienne, spécialiste de la Russie et du monde communiste, et Andrei Gratchov, qui fut le porte-parole et le conseiller de Mikhail Gorbatchev, et qui publie aujourd'hui « Le passé de la Russie est imprévisible ». Les Russes se sentent-ils humiliés ? Ce sentiment est-il fondé d'une part, et d'autre part, explique-t-il la politique suivie par Vladimir Poutine après la chute du communisme, puis celle de la maison Eltsine, Andrei Gratchov?
Écoutez, le sentiment de l'humiliation, ce n'est qu'un des plusieurs termes qui sont utilisés, à la fois par les dirigeants officiels russes, mais aussi les experts, les représentants de l'élite, intellectuelle en Russie, pour expliquer ce que j'appellerais ce sentiment de malaise national, qui en effet caractérise l'état d'esprit, dirais-je, de toute une société. Il est vrai que pour des raisons évidentes et naturelles, pour tout pouvoir, le régime actuel est en train de l'instrumentaliser, ce sentiment. Mais il y a derrière ce terme, humiliation, déjà il y a tout un éventail de termes qu'on peut citer. Marginalisé, ignoré, parfois méprisé, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, ça se résume plutôt à une définition qui peut être la frustration. La frustration de toute une société qui a été poussée à vivre dans un temps historique extrêmement limité, le temps d'une génération, une ou deux générations, la nécessité de passer par une déception. Une déception dans les deux mythes dont cette société s'inspirait à travers une bonne partie de l'espoir, de son histoire. Le mythe communiste qui non seulement s'est effondré dans la réalité de la vie quotidienne, mais officiellement a été annoncé par le pouvoir même, bien sûr à l'époque de Gorbatchev, comme une voie qui a conduit vers l'impasse. Mais presque tout de suite après, ou de toute façon dans l'espace extrêmement court, ce qui devait corriger, rectifier cette erreur historique, finalement la liberté, le libéralisme dans l'économie, la démocratie, dans la forme telle qu'elles ont été vécues et présentées à la société russe, ont apporté une nouvelle déception, de toute façon pour un bon nombre de gens. Et donc, suite à cela, nous sommes face à une société complètement déboussolée, en manque des repères spirituels. Mais à tout cela, il faut ajouter ce que vous avez mentionné, l'Ukraine, on va en parler, je l'espère. Mais bien sûr, l'action l'attitude, la maladresse, ou peut-être la mauvaise volonté aussi, de l'Occident, qui a fait, à mon avis, une erreur capitale de croire comme si, avec l'éclatement de l'Union soviétique, c'est la Russie, tout court, la Russie historique, la Russie comme la réalité nationale, historique, géographique et autres, allait disparaître de la scène internationale et de l'histoire politique. Et voilà, cette Russie, ce pays et cette société qui se sont sentis traités comme un pays vaincu, alors qu'il s'agit quand même, ne l'oublions pas, de peuple qui a porté la contribution majeure dans la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, semble être humilié, c'est vrai, par cette négligence, par l'établissement de l'ordre dans lequel il n'est pas invité, dans lequel il n'est pas traité comme un partenaire associé et surtout pas égal par le monde occidental.
François Sturm.
Oui, alors effectivement, il y a un sentiment d'humiliation qui s'est développé, qui s'est même beaucoup aggravé à la période de Yeltsin, après la fin du communisme. Alors, ce sentiment d'humiliation, à mon avis, a plusieurs causes. L'une des causes, c'est une mauvaise analyse des raisons de la chute du régime. On a répété, et surtout dans le discours communo-patriote, qui est maintenant entré dans le mainstream, hein, dans le discours officiel russe, que l'Union soviétique est tombée à la suite d'un complot ourdi à Washington, une cinquième colonne, n'est-ce pas? Monsieur Gratchev doit bien connaître ces thèmes, hein, puisque Gorbatchev a été accusé.
Je dois en faire partie.
Voilà, vous deviez en faire partie. Donc c'était une cinquième colonne vendue à l'Occident qui a organisé la chute de l'Union soviétique. Et donc c'est la thèse du coup de poignard dans le dos, en fait. Et bien entendu, lorsqu'on part de cette analyse des causes de la chute du communisme, on arrive à un état d'esprit tout à fait...
Mais cette analyse, elle n'est pas partagée par toute la classe politique russe.
Elle est très répandue. Pas toute la classe politique, mais elle est très répandue.
Ah d'accord.
Elle est très répandue, et surtout sous Poutine. Sous Poutine, c'est devenu pratiquement la doxa. Donc c'est à partir de là, d'ailleurs, que Poutine a construit sa politique comme une politique visant à réparer cette humiliation, donc du complot réussi de l'Occident pour faire tomber l'Union soviétique. C'est très important de comprendre ça. Alors voilà une des causes. Une autre cause, c'est que, et là, effectivement, si on réfléchit à la responsabilité de l'Occident,
voilà,
elle existe, mais elle n'est pas là où on nous le dit. Elle est dans le fait qu'on a fait croire, on a laissé croire aux Russes que le passage à l'économie de marché, que le passage à la démocratie libérale serait facile. Hein, on a publié des plans de transition en 500 jours. Et au début de la période Yeltsin, je dirais que la présence occidentale, les conseillers occidentaux, dont le rôle était très exagéré d'ailleurs dans la représentation que les Russes en avaient, mais cette présence était probablement une erreur parce que les Russes ont attribué alors la catastrophe économique et la débâcle des premières années Yeltsin, encore une fois, à ce complot, à cette cinquième colonne occidentale qui était installée autour de Yeltsin et qui était là pour organiser un génocide du peuple russe. Vous connaissez bien ces thèmes. Hein, ils ont
oui,
été,
mais alors, est-ce que vous diriez aussi, comme M. Gratchev, si je l'ai bien compris, que diplomatiquement, la Russie a été traitée comme un pays vaincu, une puissance devenue faible, qui ne compterait plus sur la scène internationale, ce qui pourrait expliquer le réflexe, le durcissement de la politique exine et le réflexe patriotique, sinon nationaliste, dans l'opinion russe.
Là, je ne suis absolument pas d'accord. Là, je pense qu'au contraire, la Russie a été traitée avec des égards qu'aucun pays... dont aucun pays n'a été entouré. Et elle en a bien profité. du temps de Yeltsin, du temps de Yeltsin et du temps de Poutine, je n'en parle même pas.
C'est quoi ces égards ?
Ben, les égards, elle a été intégrée dans les structures occidentales. Elle a.
Oui, était dans le G8.
Oui,
par exemple.
Oui. Elle a été admise partout et son opinion a pesé. Hein. L'élargissement de l'OTAN a été retardé pendant des années. Hein. Les Baltes avaient demandé d'être intégrés à l'OTAN déjà en 91. Ils demandaient. On ne l'a pas fait tout de suite. On a proposé le partenariat pour la paix, pour que la Russie ne se sente pas exclue. Et de même, dans le dossier yougoslave, on a essayé de tenir compte de l'opinion russe. Donc, je pense que ça fait partie, ce thème de l'humiliation constante de la Russie, c'est un facteur qui existe dans l'imagination des dirigeants russes, mais qui n'est pas... attesté historiquement. Hein, voilà.
On aurait gâché.
Bon, très bien, voilà.
Voilà un vrai point de désaccord.
Bien sûr.
Oui,
j'ai les éléments sur lesquels je peux réagir. Bon, commençons par, en effet, la chute de l'ancien modèle, de modèle soviétique, et une tentative de cette société soudainement libérée de son régime précédent, dans lequel, après tout, ne l'oublions pas, elle a passé une vie de 70 ans à peu près. Voilà, donc c'était un saut dans l'inconnu, dans l'illusion, c'est vrai, dans une autre utopie. De toute façon, c'est de cette façon que cette société s'imaginait le monde occidental. Pour beaucoup, c'était en quelque sorte le maintien du niveau de la sécurité sociale, de l'assurance quotidienne, assurée médiocrement par le régime soviétique, plus la société de la consommation occidentale. Et on a découvert que ce changement avait un prix. Il est vrai que dans ce passage, qui devait obligatoirement être difficile, c'est vrai, la Russie n'a pas été beaucoup aidée économiquement, déjà. Pas question d'une variante quelconque, de sorte de plan Marshall que l'Europe a connu après la dévastation de la Deuxième Guerre mondiale, alors que la dévastation économique de la société de l'économie soviétique par le modèle précédent peut être tout à fait comparable avec ce qui s'est passé avec l'Europe. Maintenant, la suite, et surtout ce qui s'était passé sur la scène internationale. Bon, déjà, le fait que l'OTAN s'est maintenu après la disparition du pacte de Varsovie, après la disparition de la menace soviétique, après la non-existence de ce que représentait, je dirais, en quelque sorte, une menace encore plus importante, le projet d'un monde opposé, un projet alternatif de monde. C'était ça, je dirais, le fondement de la menace soviétique. Donc, l'OTAN, qui, après tout, par définition, théoriquement, devait servir comme arme de la défense du monde libre, contre cette menace soviétique, qu'il soit militaire ou idéologique, s'est maintenu, non seulement il s'est maintenu, mais en absence des alibis stratégiques et idéologiques, il n'a pas hésité à élargir, et cela d'ailleurs contrairement à des engagements qui avaient été donnés à Gorbatchev par les dirigeants occidentaux, à l'époque, au moment où il donnait son accord pour l'entrée de l'Allemagne unifiée dans l'OTAN, a commencé à non seulement se rapprocher des frontières de la Russie post-soviétique dans l'ancien espace de pacte de Varsovie, ce qui d'ailleurs a été accepté avec une certaine légèreté et facilité par le pouvoir russe à l'époque, Yeltsin, et le premier mandat de Poutine. Après tout, on était plutôt amis en cette période. Mais plus que cela, à partir du moment où la direction russe a commencé à voir à ce que le TAN allait entrer déjà dans l'espace qui était considéré comme le corps historique de la Russie, son espace de la Russie traditionnelle. Bon, les pays baltes, évidemment, doivent être mis dans les parenthèses. Là, ça pouvait être pris, et ça a été pris. Et surtout, ça a été présenté par le pouvoir comme, bien sûr, une sorte de l'encerclement non justifié.
Oui, mais Andrei Gratchev, vous semblez comprendre cette thèse et dans une certaine mesure l'épouser. Cependant, François Stomme vous rappelait tout à l'heure que c'est les pays baltes, aussi bien d'ailleurs que les anciens pays situés derrière le rideau de fer d'Europe centrale et orientale, qui aspiraient à entrer dans le TAN.
Qui demandaient, les Américains étaient très réticents au début.
Et en outre, et j'ajoute que c'est Vladimir Poutine qui a dit, celui qui ne regrette pas la destruction de l'Union soviétique n'a pas de cœur. Il a certes ajouté, celui qui veut sa reconstruction à l'identique n'a pas de tête. Il n'empêche, il a dit à une autre occasion, il faut reconnaître que la chute de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. S'expliquant, Poutine a dit, je me plaçais non pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue humanitaire. Tous ces Russes ethniques qui se trouvent maintenant hors de la Russie, ils sont 25 millions, ils sont à la merci des nationalismes extérieurs. Et elle a dit, ça c'est une tragédie. On peut comprendre l'inquiétude des pays visés, ceux qui ont une importante minorité russophone. Et si Vladimir Poutine se dit « je suis le président de tous les Russes », on peut comprendre qu'ils aient besoin de l'abri de l'OTAN. Et ce sont presque les déclarations de Vladimir Poutine qui en justifieraient la perpétuation. Andrei Gratchev, je vous passe la
parole. Oui, écoutez, nous sommes face à une histoire éternelle, la primauté de l'œuf ou de
du
poulet. Parce que, voilà, tout ce langage de Poutine, enfin, ne l'oublions pas, il ne date que d'il y a quelques mois, pratiquement de la crise, de déclenchement de la crise ukrainienne. Alors qu'avant, dans la période où précisément tous ces pays aspirants, logiquement, parce qu'ils ont des comptes historiques, pas seulement les pays baltes, mais les Polonais, une partie importante de l'Europe de l'Est a des comptes historiques à régler avec l'ancienne Union soviétique, mais même avec la Russie traditionnelle, impériale, précédant l'Union soviétique. Tout cela avait précédé. Et n'oublions non plus une certaine évolution dans les relations entre la Russie, même poutinienne, et l'Occident. Parce que tout ce que j'appelle la période de Poutine numéro 1 ou le numéro 2, c'était plutôt la période où la direction russe se sentait plutôt, je dirais, dans le registre d'une coopération possible, imaginable avec l'Occident, mais au fur et à mesure, les accrocs ont commencé à s'accumuler. La Yougoslavie, l'Irak, même la Libye tout dernièrement. C'est dans ces actions, ces faits accomplis, ces actes unilatérales entrepris par l'Occident collectif ou surtout par les Américains qui, à partir du moment où, par exemple, ils avaient des difficultés pour faire cautionner leur action par la décision du Conseil de sécurité, ils n'hésitaient pas à passer outre, qu'il s'agisse de la Yougoslavie ou de l'Irak. Tout cela apportait des arguments pour augmenter ce sentiment, non seulement de la frustration, je dirais même pas de l'accumulation de menaces stratégiques, puisque je vois peu de gens, et surtout à la tête de l'État russe, qui redouteraient enfin, une intervention militaire de l'Occident contre la Russie. Mais le comportement de l'Occident, comme si la Russie n'est plus une valeur avec laquelle il faut compter, et de toute façon un facteur négligeable sur la scène internationale.
François Stone.
Bon, alors le maintien de l'OTAN, je crois que D'abord, c'était une OTAN complètement transformée, l'OTAN de l'après-guerre froide. Hein, c'était pas la structure des années 50. Hein. Deuxièmement, il faut tenir compte du fait que la vie politique russe pouvait susciter des inquiétudes. Les développements dans la vie politique russe, à l'époque même de Gorbatchev, on pouvait craindre, et on craignait beaucoup en Occident, que Gorbatchev ne soit renversé par un complot de généraux, enfin un peu ce qui s'est passé, mais,
oui,
mais ce qui a échoué. Mais enfin bon, on pouvait penser que des généraux un peu nationalistes et agressifs allaient renverser Gorbatchev. À l'époque de Yeltsin, on voit apparaître dès le printemps 92 des mouvements ultra-patriotes très agressifs, à la rhétorique extrêmement offensive et ambitieuse. Et on n'était pas non plus du tout sûr de la solidité du régime d'Yeltsin. Hein. On pouvait craindre que ces groupes, où encore une fois, on trouvait beaucoup de militaires, que ces groupes ne finissent. Et d'ailleurs, au moment de l'affrontement avec le Parlement, on a pu un instant craindre un renversement de ce style-là. Donc,
Et sous Poutine, cette crainte s'est un peu dissipée quand même.
Sous Poutine, maintenant, on n'a plus de crainte
de
cet ordre-là, mais enfin, on a d'autres raisons et d'être très inquiets. Mais je voudrais revenir encore à la question de l'humiliation. Et justement, des griefs que vous avez énumérés, à mon avis, il faut aussi tenir compte de l'instrumentalisation de ces griefs pour culpabiliser l'Occident. Hein, on voit très bien, Poutine ne cesse de resservir ce catalogue de griefs qui nourrissent, qui justifient son ressentiment à l'égard de l'Occident, mais un ressentiment qui, je dirais, est antérieur au grief en question. Il était déjà là bien avant.
D'après André Gatchin, vous avez dit tout à l'heure qu'au départ, la politique de Poutine était quand même amicale.
Là aussi, j'apporterai quand même un petit bémol.
Oui.
En apparence, oui, la politique de Poutine est assez coopérative en 2000, 2002, 2003. C'est 2004 où les accents vraiment hostiles à l'Occident commencent à se faire sentir, hein, très nettement. Et puis alors en 2007, là, il y a déjà le discours de Munich, carrément un défi lancé à la tête des États-Unis, donc un discours extrêmement agressif. Alors à mon avis, ça ne tient pas tellement justement à une réaction à des griefs que des griefs réels liés au comportement de l'Occident. Ça tient à une évaluation différente de la corrélation des forces. C'est-à-dire que Poutine, c'est quand même un bolchevique, au fond, même s'il ne croit plus à la lutte des classes, hein, mais il raisonne en termes de rapport de force et de corrélation des forces, d'évolution de la corrélation des forces. Alors en 2000, on avait encore une Amérique assez puissante en apparence, hein, et bon, qui est partie dans la lutte contre le terrorisme. En 2004, l'Amérique s'enlise
en Irak.
Et en 2007, c'est le début de la crise des subprimes. Donc, c'est l'évolution de la corrélation des forces qui, à mon avis, a fait évoluer le discours de
Poutine.
Ah
oui, donc c'est un peu l'inverse de ce que dit M. Gratchev.
Voilà.
C'est quand il pense que l'Amérique est faible.
La Russie s'est sentie en position de force.
En position de force, mais alors pourquoi?
À cause des prix du pétrole.
Oui, non, mais pour faire quoi?
Pour réaliser son programme de réparation, justement, de l'humiliation originelle, qui est l'effondrement de l'Union soviétique.
En reconstituant
une espèce d'empire sous une autre sauce, si vous voulez.
Mais d'où, à votre avis...
Voilà, c'est ça le but de Poutine.
D'où le comportement, et là nous allons y venir,
voilà,
de Vladimir Poutine,
voilà,
vis-à-vis de l'Ukraine.
À partir de 2007-2008, Vladimir Poutine est convaincu que l'Occident est un tigre en papier et qu'il peut foncer. Et il le montre au moment de la crise géorgienne. Hein, Déjà, il n'y a aucune réaction de l'Occident à partir du moment où la Russie a pu disséquer la Géorgie en lui enlevant deux provinces. Il n'y a aucune réaction de l'Occident. Au contraire, n'est-ce pas, on part dans le reset du côté américain, le redémarrage. Et en France, on vend le Mistral. Hein. Donc c'était un signe très clair que la politique de Poutine passait très bien en Occident et qu'on pouvait continuer.
Voilà, donc à mon avis, c'est un exemple parfait de cette, je dirais, ce clash de deux visions opposées, de deux paranoïas, de deux malentendus, choisissez ce que vous voulez, parce que côté russe, on prend l'Occident pour la force menaçante, pour voilà, une force agressive qui est en train de marcher déjà sur les pieds de la Russie, dans son espace traditionnel, peuplé précisément par des millions des Russes ex-soviétiques, sans raison stratégique, sans justification aucune. Pas de menace venant de l'Union soviétique, pas de compétition stratégique sur la scène internationale comparable à l'époque de la guerre froide. Donc c'est une vision, on peut le dire, enfin dans la tête de Poutine, avec son passé de officier de KGB, c'est peut-être assez naturel. Mais en même temps, je dirais que Poutine actuel, Poutine numéro 3, après les deux mandats, le mandat actuel, est déjà l'élève pas seulement de l'école de KGB, mais de l'école de ses contacts avec l'Occident. Et donc, tout le bilan de ces années qu'il a vécues a dû lui apporter des arguments pour cette paranoïa. Alors que la paranoïa inverse, opposée, venant de l'Occident, c'est de voir en Poutine quelqu'un qui cherche à reconstruire l'Union soviétique ou l'Empire russe.
Allez-y.
J'ai juste une petite remarque. François, vous parlez de piétiner les terres historiques de la Russie. Bon, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres dans l'affaire ukrainienne? C'est l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Qu'est-ce que c'était que cet accord d'association? Il n'y avait rien là. C'était un accord tout à fait... Les Européens étaient extrêmement timorés. C'était un accord visant à faciliter les échanges économiques entre l'Ukraine et l'Union européenne. Il n'y avait vraiment pas de quoi fouetter un chat, excusez-moi.
Attendez, madame, il y a,
André Gratton.
Enfin, il y a autre chose. Nous nous trouvons maintenant, un an après le déclenchement de la crise ukrainienne, pratiquement à la case départ, pratiquement à la reconnaissance côté occidental, côté européen, de la justesse des arguments, pas nécessairement tenus par les Russes, mais tout simplement par le bon sens, de ce que la situation ukrainienne ne saurait pas être gérée sans l'implication de la Russie. Alors que la première approche venant de la bureaucratie bruxelloise, c'était de dire, bon, la Russie n'a rien à faire dans cela. Deuxième élément expliquant le déclenchement de cette crise, c'est précisément la gestion de la transition du pouvoir à Kiev. Barack Obama, il y a quelques jours, dans une interview dans le CNN, d'une façon assez désarmante, avoue, oui, c'est vrai, nous, les Américains, avons participé dans l'organisation de la transition du pouvoir en Ukraine. Vous voulez que, enfin, la Russie et sa direction, avec tout le passé qu'il représente, même mentalement, enfin, regarde cela d'une façon...
Oui, Monsieur Gratchev, quand même, Viktor Yanukovych était prêt donc de signer cet accord dont parle justement François Stomme. Vladimir Poutine a fait pression sur lui pour qu'il ne le fasse pas. Il lui a promis une aide de, je crois, 15 milliards de dollars. À ce moment-là, Yanukovych a brutalement tourné sa veste et cela a provoqué, non pas un coup d'État...
Une rébellion de la population ukrainienne.
Presque la révolution de la place de l'indépendance, la révolution enfin, on peut appeler ça la révolution de Maïdan, la population de Kiev et une grande partie de la population ukrainienne est descendue dans la rue parce que, évidemment, elle ne voulait pas de ce diktat de Moscou et la crise ukrainienne est née, malgré tout, de cette révolte. Viktor Yanukovych a dû précipitamment quitter le pouvoir, se réfugier en Russie et on connaît la suite. Alors que les Américains aient joué leur partie dans ce mouvement, peut-être, mais ce n'est pas un mouvement télécommandé par les États-Unis, semble-t-il. C'est un mouvement, si vous voulez, causé par la pression très forte exercée par Poutine sur le pouvoir de Kiev.
Et oui, sauf qu'on oublie, on oublie dans ce calendrier des événements un élément important. Tout d'abord, on était obligé de le rappeler. De quoi s'agit-il ? L'Ukraine est un État composite, représenté par les couches, les pannes de la société et de la réalité historique, culturelle, économique, extrêmement diverse. D'une partie occidentale, la Galicie annexée par Staline dans les années 39-40, jusqu'à la partie russophone et tout simplement russe, rattachée à l'Ukraine par Staline et les bolcheviques dans les années 20 et 30. Il s'agit en quelque sorte de la version élargie de la Yougoslavie, c'est-à-dire un pays extrêmement difficile à gérer, à tenir dans un ensemble réuni. Et donc, ce qui s'est passé à Maïdan, et là, je vous l'accorde, je suis d'accord, c'était non seulement la maladresse, mais la brutalité du comportement russe qui a déclenché la révolution de Maïdan. Maïdan bis, d'ailleurs, ne l'oublions pas, il y en a eu déjà un autre quelques années. Bien sûr, quelques années avant. Mais, suite à cela, cette confrontation entre les indignés de la rue et le pouvoir en place, après tout représentant certaines institutions, légitimement élues, ne l'oublions pas, il y a eu une formule collectivement élaborée entre les représentants de l'Europe, trois ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de la Pologne, plus les deux représentants ukrainiens, c'est-à-dire les représentants du pouvoir et de l'opposition de Maïdan. Et en plus, les Russes, enfin, représentés par un envoyé spécial par Poutine. Donc cet accord prévoyait précisément ce qui a été un an plus tard et 5000 victimes plus tard, avec les destructions et les fractures terribles, qui est pratiquement une guerre civile qui s'est déclenchée sur ce territoire, eh bien, a été brisée.
Elle ne s'est pas déclenchée toute seule.
Non, elle a été déchirée, cet accord, au lendemain, parce que, tout simplement, le pouvoir est passé. Et c'est ça qui a transformé, aux yeux des Russes, la crise intérieure ukrainienne, ou peut-être la crise bilatérale ukraino-russe, en une confrontation entre la Russie et l'Occident, qui, voilà, il voyait derrière cette opération.
C'est déjà l'accord d'association avec l'Union européenne qui était perçu comme ça en Russie. Hein, déjà, c'était antérieur. Mais je veux quand même rappeler que l'Ukraine est un État souverain. Elle a le droit de choisir avec qui elle va signer des accords de coopération économique. Elle avait le droit de le faire. Je ne vois pas vraiment par quel argument on peut justifier l'ingérence de la Russie dans les affaires ukrainiennes.
Est-ce qu'on peut le justifier par le fait qu'il y a des Russes et des pro-russes en Ukraine qui n'allaient pas dans ce sens ?
L'origine du problème avec les régions de l'Est, c'est la télévision russe qui s'est livrée à une propagande de haine frénétique et ignoble contre le gouvernement de Kiev, qui a convaincu les pauvres bougres de l'Est qui sont pas très... qui n'ont pas l'esprit très critique. Hein. Elle les a convaincus qu'il y avait des fascistes à Kiev et que ces fascistes allaient leur faire la peau, etc. Hein. C'est ça qui a causé le conflit. C'est cette propagande empoisonnée que la Russie a diffusée, non seulement d'ailleurs en Ukraine, cette propagande empoisonnée est diffusée aussi dans toute l'Europe. Hein, et beaucoup, malheureusement,
franchement, ce qui a déclenché le conflit...
Vous savez ce que montrait la télévision russe. Vous regardez la télévision russe. C'était inadmissible.
D'accord. Sauf que ce n'était pas la propagande russe qui a déclenché le conflit. Mais c'était le choix par le gouvernement, le nouveau gouvernement ukrainien, le choix de la solution militaire du problème extrêmement délicate et compliquée et réelle de la diversité économique, culturelle, historique des différentes parties de l'Ukraine. Et à partir du moment où, probablement, s'inspirant de l'exemple de la Russie de Yeltsin et de Poutine dans la gestion du problème tchétchène, mais c'était cette fois Kiev qui a envoyé l'artillerie et les tanks pour résoudre le problème militairement, que la crise a passé pratiquement à l'étape de la guerre civile ouverte. Bien sûr, la propagande...
L'Ukraine venait de perdre la Crimée. Elle n'a pas réagi et elle a été amputée de la Crimée. Alors, est-ce que vous vous attendiez à ce que le gouvernement de Kiev reste les bras croisés et n'oubliez pas que la propagande russe parlait à l'époque de Novorossiya, donc d'une amputation de l'État ukrainien qui allait jusqu'à Odessa, sinon plus loin. Vous estimez que les Ukrainiens devaient rester les bras croisés et attendre de se faire tailler en pièces par une intervention étrangère qui n'osait même pas dire son nom.
J'espère, madame, nous engager ici, dans la répétition des versions réciproques présentées par les Russes et les non-Russes.
Alors, une question que je voudrais vous poser à tous les deux. Le dialogue avance. Je suis un observateur, je ne suis pas engagé dans cette affaire. J'ai été très engagé au moment de la crise yougoslave, je dois le dire, mais aussi parce que j'étais révulsé par la propagande serbe qui nous disait « les Croates sont des oustachis et donc tous les Européens, et notamment tous les Juifs d'Europe, doivent soutenir les Serbes et c'est ainsi qu'on a laissé envahir et même détruire la ville de Vukovar ». Bon, donc effectivement, je peux être un peu choqué par une propagande qui dit aujourd'hui encore qu'il s'agit pour la junte fasciste de Kiev d'éradiquer les Juifs et les Russes. C'est ce qu'a dit Serge Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Mais je voudrais partir de ce qui s'est passé en 1991, auquel vous vous référez, Andrei Gratchev, dont vous parlez dans votre livre. Vous dites que ce sont trois présidents de républiques soviétiques, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, qui ont décidé, malgré Gorbatchev, de dissoudre l'URSS. Et cette dissolution a été confirmée, ratifiée par le Parlement. Et je crois qu'il y a eu aussi un référendum où 90% des Ukrainiens approuvaient l'indépendance de l'Ukraine. Et maintenant, on nous dit... Alors, je demande à comprendre. L'Ukraine est très diverse. Le côté galicien, etc., est attiré par l'Europe. L'autre côté regarde vers la Russie. Alors, mais que s'est-il passé entre 1991 et aujourd'hui pour qu'il y ait une division, semble-t-il, insurmontable, Andrei Gratchev?
Écoutez, je pense que, après tout, la crise ukrainienne a une autre dimension qui ne doit pas être négligée. On peut bien sûr l'interpréter comme la première nouvelle guerre de cette Russie forte, comme vous dites, ou de Poutine, ou de son régime, qui se sent suffisamment fort pour défier l'Europe, l'Occident, afin qu'il commence...
Le droit international ?
Attendez, n'entrons pas, ne me faites pas sortir les arguments que vous connaissez à l'avance, et qui sont plusieurs d'ailleurs, et que vous pouvez trouver dans la presse française également, qui contredisent ce que vous dites. Par contre... Ce que représente le déclenchement de la crise ukrainienne, à mon avis, c'est ce que j'appellerais la deuxième vague, ou peut-être la deuxième mort de l'Union soviétique. Parce que nous assistons, à partir de 91, l'année à laquelle vous faites référence, c'est vrai, à une dissolution extrêmement civilisée, tranquille, harmonieuse. Et à cette époque, je me souviens, par force d'avoir été à côté de Gorbatchev, nous étions ravis et presque... voilà, ne trouvant pas, suffisamment de plaisir, de constater tout le contraste qui existait entre l'éclatement de l'Union soviétique et la Yougoslavie, qui est entrée en guerre civile, douloureuse et terrible. Alors qu'à l'époque, l'Union soviétique, avec les 14 différentes républiques qui en faisaient partie suite à la décision prise par les trois dirigeants en Biélorussie, s'est dissoute d'une façon extrêmement tranquille. Donc, à mon avis, c'est dans un certain sens, c'est le cas yougoslave, l'expérience yougoslave rattrape cette ancienne Union soviétique, parce que, après tout, l'Union soviétique s'est brisée non en 15 différentes État indépendant, comme vous dites, souverain et tout. Mais c'est brisé en 15 petites unions soviétiques. Bon, à l'exception évidemment des pays baltes. Avec, pour la grande majorité dans ces nouvelles États indépendants, pratiquement le maintien des mêmes modèles, des mêmes élites, parfois les mêmes personnes, le même fonctionnement, d'où, au bout de 25 ans de leur existence indépendante, pratiquement, nous assistons à une succession de crises. L'Ukraine vit au bout de 25 ans et suite à une Maïdan numéro 1, à la révolution orange, où le pouvoir a connu, à l'apparence, eh bien, la suite démocratique, l'alternance du pouvoir. Il y a eu des pro-européens et pro-occidentaux qui ont été élus légitimement, Yushchenko, Timoshenko, mais de toute façon, une des responsabilités principales pour la crise nationale de l'Ukraine, c'était pas la signature de l'association avec l'Union européenne, mais c'était la faillite de cet État.
Oui, là, je suis d'accord avec l'analyse d'André Gratchov sur un point, c'est que effectivement, c'est le processus de désoviétisation, de décommunisation, qui en fait était beaucoup plus lent qu'on ne le pensait, à l'origine. Et la crise ukrainienne est une phase de ce processus de désoviétisation, encore une fois, qu'il faut voir dans la durée. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas interpréter cette guerre russo-ukrainienne comme un affrontement géopolitique. Ça, je crois que c'est une illusion qui est largement partagée en France. On s'est présenté comme un affrontement géopolitique entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis d'une part, la Russie de l'autre. C'est pas du tout le fond du problème. Les Américains sont très absents de l'Europe. Ils sont pas très présents, surtout sous...
Certains d'entre eux parlent d'armée...
Sous Obama.
D'armée
oui, mais c'est pas fait. Hein.
Oui.
C'est pas fait. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la question du régime. C'est que la Russie a évolué vers un régime autoritaire. Je dirais, elle est revenue dans la matrice du pouvoir moscovite, presque du 15e siècle. Hein. C'est presque ça, ce pouvoir autoritaire, la verticale du pouvoir, etc. L'Ukraine, elle voulait choisir l'européanisation.
Comme le dit André Gratchov, l'État était en faillite, vous le reconnaissez.
L'État était en faillite.
Les précédentes expériences
étaient terribles. Et les Ukrainiens, justement, voulaient sortir de là. Ils voulaient sortir de la désovietisation et ils regardaient du côté de l'Europe. Ils voulaient devenir
plus,
comme la
madame,
Pologne.
On ne peut pas parler d'une seule Ukraine. Il s'agit de plusieurs Ukraines.
Même dans les régions, justement, le Donbass, les Ukrainiens, les habitants du Donbass rejetaient le régime de Yanukovych.
Mais alors justement,
un régime qui était universellement détesté en Ukraine.
Mais justement,
il y avait un consensus.
Répondez à ma question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'est-il passé entre 1991 et aujourd'hui,
voilà,
pour que l'Ukraine apparaisse aussi divisée maintenant.
Je réponds à votre question. Ce qui s'est passé, c'est l'évolution de la Russie vers ce modèle de Russie impériale. Et auparavant, la Russie ne tirait pas trop les fils en Ukraine. À partir du régime de la mise en place du régime de Yanukovych, la Russie a créé, en quelque sorte, complètement phagocyté l'État ukrainien en y infiltrant partout ses agents. Et ça s'est vu au moment de l'affaire de Crimée. L'État ukrainien n'était pas fonctionnel parce qu'il était paralysé du haut en bas par cette pénétration russe. Et donc
je
la
vois
Russie,
pas vraiment
à partir du
un
moment,
intérêt des Russes de voir la faillite de cet État qui était son voisin, qui pouvait être son partenaire, qui pouvait lui servir d'ailleurs de pont de communication.
Alors,
avec l'Europe.
Pourquoi voulait-elle maintenir ce régime de faillite?
Alors que maintenant, encore une fois, un an plus tard, on entend de la bouche de la chancelière allemande, Angela Merkel, de ce qu'elle verrait tout à fait légitime, de ce que l'Union européenne trouve la solution du dossier ukrainien non seulement avec la Russie, mais la trouve de la façon à assurer pour l'avenir la coopération entre l'Union européenne et l'Union eurasienne de Vladimir Poutine. Alors qu'au départ, c'était ça pratiquement la demande initiale du président russe.
Alors, la Russie se sent déstabilisée par des régimes libres à ses frontières. Elle ne supporte pas l'idée que l'Ukraine évolue vers un régime. Je ne dis pas que la chose soit facile en Ukraine. Je suis tout à fait consciente des difficultés de la situation de l'Ukraine. Mais l'idée que l'Ukraine aurait pu évoluer vers un sens occidental, c'était quelque chose que ne pouvait pas supporter la Russie. Parce que l'attitude que Vladimir Poutine a à l'égard de la liberté à l'intérieur de la Russie, il l'a aussi à l'égard de la liberté dans ce qu'il appelle l'étranger proche. L'idée que ces pays puissent devenir libres et évoluer vers le modèle occidental, ça lui est insupportable. Alors vous parlez de coopération entre l'Union eurasienne et l'Union européenne et l'Europe, on voit très bien aujourd'hui quel genre de coopération, comment cette coopération peut s'exprimer. Elle n'est possible que si les Européens cèdent sur tous les plans aux revendications de la Russie.
Bon, déjà, ce n'est pas moi qui parle de cette coopération. Je vous citais la chancelière allemande. Je peux vous rappeler que, initialement, d'ailleurs, l'idée initiale de Poutine, bon, ne me faites pas passer pour un grand admirateur de ce monsieur, certainement, mais tout simplement, par la recherche de la justesse, je dirais de la réalité, je dois vous rappeler que le modèle qu'avait évoqué Poutine comme la logique, la matrice de la construction de l'Union eurasienne, c'était l'exemple de l'Union européenne.
Alors justement, oui, je voudrais...
Mais ça ne correspondait pas à la pratique. Parce que dans l'esprit de Poutine, il s'agit d'un mécanisme de domination de la Russie sur l'espace post-soviétique.
Mais alors,
ne comprend pas qu'il ne raisonne pas en termes nationaux. Il raisonne en termes d'empire. Il ne comprend pas les nations.
Vous avez un autre dirigeant pour la Russie, madame?
C'est à vous de le chercher.
Je voudrais vous poser, si j'ai le temps, deux questions. En tout cas, la première, c'est... Quel est, après les accords de Minsk, quel peut être, selon vous, l'avenir de l'Ukraine? Et ensuite, une dernière question, si nous avons le temps, sur la Russie. François Stomme.
Alors, les accords de Minsk, à mon avis, sont pour l'Ukraine catastrophiques, dans la mesure où l'Ukraine va être obligée d'entretenir le Donbass, de payer, donc, pour la région du Donbass, sans avoir le contrôle politique. Dans cette région, la région sera contrôlée par Moscou. Donc l'Ukraine paye, elle va entretenir des enclaves néo-bolcheviques qui pratiquent le pillage et vraiment des méthodes bolcheviques, je dirais, des années 1918, du communisme de guerre. C'est ça, c'est le régime dans ces enclaves. Ce sera donc un gouffre sans fond. Ça veut dire que l'argent qu'on peut accorder à l'Ukraine pour faire ses réformes va passer là. En outre, l'Ukraine n'obtient pas le contrôle de ses frontières avec la Russie, puisque ces régions vont avoir le droit d'avoir des relations spéciales avec les régions russes. Et ce qui est demandé de surcroît, c'est une modification de la constitution ukrainienne de façon à ce que ces régions aient un droit de regard sur les orientations de la politique de Kiev. Ça veut dire que ces accords impliquent la vassalisation de l'Ukraine de nouveau. Alors je comprends que ça vous paraisse un bon exemple de coopération entre l'Europe et la Russie, puisque les Européens ont accepté complètement le point de vue russe. Hein, et dans ce cas-là, on peut coopérer. Pour l'Ukraine, c'est une catastrophe. Ça veut dire que l'Ukraine va redevenir une satrapie stagnante de l'espace post-soviétique.
Bon, bien André Gratchev. Comme vous pouvez le comprendre, j'ai une autre lecture des accords de Minsk, puisqu'à mon avis, alors que vous le présentez comme la capitulation commune de l'Ukraine et de l'Europe devant Poutine, pour moi, ce qui compte avant tout, c'est le fait de ce que ces accords nous offre la chance, nous, c'est-à-dire à tout le monde, aux Ukrainiens avant tout, d'éviter la guerre, de l'arrêter au moins, d'éviter les nouvelles victimes, d'essayer de clore cette terrible perspective, non seulement de la guerre civile, mais du partage de ce pays, ce qui était déjà une perspective tout à fait réaliste. Deuxième élément, à mon avis, logique et important, et là, je vous l'accorde, Poutine peut se considérer comme gagnant sur ce point, l'engagement officiel, presque, des Occidentaux de s'opposer à l'entrée prochaine de l'Ukraine dans l'OTAN. Bref, le retour à une des demandes initiales formulées par la Russie il y a un an. Troisièmement, à mon avis, ce qui est important, c'est quand même une chose non négligeable. C'est peut-être une chance et une promesse de la naissance de la diplomatie européenne, capable pour la première fois de trouver une solution pour la crise extrêmement grave, dramatique, tragique qui allait se dérouler sur son territoire.
Bien, malheureusement, nous devons nous arrêter là. Donc, je ne pourrai pas poser ma question concernant la continuité ou la discontinuité de la politique russe. Je voulais m'appuyer sur une réflexion de Vassili Grossman dans Tout passe, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup François Stomme, merci beaucoup Andrei Gratchev. Je rappelle, Andrei Gratchev, le titre de votre livre, Le passé de la Russie est imprévisible, journal de bord d'un enfant du dégel. Il est publié chez Alma Éditeur. François Stomme, vous avez écrit une biographie imposante de Beria aux éditions du Cerf et vous avez aussi écrit la postface du livre de Nicolas Ryazanovski, Histoire de la Russie, une postface qui porte sur la Russie d'Eltsine à Poutine. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Quelle histoire pour la France ?». Mes invités seront Dominique Borne et Jean Sévilla. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, Deuils et ferveurs, La France dans la rue, avec Daniel Tartakovsky.